Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Jeudi 22 mai 2025, bienvenue sur les ondes de CFAQ 88.3 pour une nouvelle édition de CFAQtuel. En ce jeudi, comme je le disais, donc on s'installe jusqu'à 15h pour présenter l'actualité de la semaine. On pourrait dire ça comme ça parce que c'était congé lundi. Donc oui. C'est notre rendez-vous cette semaine avec moi autour de la table, Elisabeth.
Christine,
oui, mon Dieu, le blanc que j'avais, je ne sais pas pourquoi.
Et puis la panique dans le visage.
Désolée. Christine, Elisabeth, bonjour.
Allô, bonjour.
Je suis très content de vous retrouver autour de la table en ce jeudi. Donc, un petit tour de table, qu'est-ce que vous aviez en réserve comme sujet, Elisabeth, en premier?
Oui, donc moi, encore une fois, on va parler un peu d'écologie, d'économie et d'activité. On va parler de friperie.
Oui. Parfait. Donc, on regardera ça avec toi et Christine.
Ben moi, mes écrans ont été très occupés cette semaine. Mm-hmm. En fait, j'ai visionné en fait le documentaire Les Perdants de l'Office national du film, un documentaire en fait là, sur les perdants en politique. Et aussi, j'ai écouté, en bon français, j'ai binge écouté la quatrième saison de Dérive, le podcast d'Olivier Bernard, le pharmacien, qui est maintenant disponible. Je vais vous faire un petit retour là-dessus.
Excellent. Puis, faisons peut-être le petit retour rapide parce que on a parlé de l'Eurovision la semaine dernière. Puis, c'était la finale en fin de semaine.
Oui, exactement.
L'as-tu écouté en direct, en différé?
Je l'ai écouté en direct, pas au complet. Ben, tu sais, j'ai écouté par bout, mettons. Là.
Ah, c'est long, là. C'est comme 5 heures.
C'était très long. Oui, c'est à peu près ça, 5 heures. Oui, puis ça, c'est beaucoup de. Une fois que les actes ont passé, dans le fond, une fois que les. Je pense que c'est 17 actes qui étaient en finale, là, ont passé. Ben, après ça, c'est beaucoup de répétage et montrage de petits extraits d'affaires de même. Là. Donc, j'ai écouté des bons bouts, mais après ça, j'écoutais d'un œil préoccupé par d'autres choses, mais c'était quand même très intéressant, très plume et paillettes, là, comme je disais la semaine passée.
Mais finalement, c'est qui a gagné?
C'est Austria, je me souviens plus c'est quoi en français?
L'Autriche,
oui, exactement, qui ont gagné avec un bon numéro. En fait, là, c'était très bon. En deuxième position, on s'est arrivé l'Israël. Il y a eu
anomalies.
Anomalies, oui, si on peut dire ça comme ça, parce que le nombre de votes, en fait, la façon que ça fonctionne pour les votes, c'est qu'il y a les 27 pays qui font partie là, de l'Eurovision, ont chacun un comité qui donne des votes, en fait, là, qui donne des points à leurs 10 premiers, dans le fond. Et ensuite, il y a les votes du public. Puis la façon que ça fonctionne, c'est par exemple en France, la personne qui est arrivée numéro 1 a 12 votes, si je ne me trompe pas, ensuite 10 votes, etc. Et c'est comme ça pour tous les pays des 27 pays. Et ensuite, il y a un pays, entre guillemets, qui est le restant du monde, finalement. Là.
C'est juste assez compliqué.
Oui, c'est ça, juste assez compliqué.
Du pointage.
J'ai essayé de mettre ça un peu simple, mais en tout cas.
Oui, oui.
Bref, après les points des juges, finalement, l'Autriche était en première place, donc il était en bonne avance. Israël était dans les 4-5 derniers, si je ne me trompe pas. Puis après les votes du public, finalement, les votes du public de l'Israël, ils ont eu quelque chose comme 300 votes, 300 points, là, avec les points, en tout cas, le calculage de points. C'est exactement. Ce qui les a mis à vraiment pas beaucoup de la première place, mais c'était un gros décalage comparativement à tous les autres pays par rapport au nombre de votes qu'ils ont eu, les nombres de première place, des choses comme ça. Comme par exemple, la France a eu 0 point du public, ce qui était quand même surprenant parce qu'il était dans les 6.
Dans les favoris.
C'est ça, exactement. Donc, il y a quelques rumeurs là, qui couraient que l'Israël aurait peut-être acheté des votes ou trafiqué un peu là, pour avoir le plus de votes du public. Il n'y a rien de prouvé, évidemment. On risque de jamais être capable de prouver ça non plus. Là. Mais c'est une autre tentative un peu là, de l'État d'Israël de whitewasher un peu leur crime présentement, là, d'essayer de reprendre la faveur du public, là, puis essayer de montrer un peu, regardez, le public nous aime.
Oui, ça se retourne un petit peu contre eux autres.
Parce que, autrement, qu'est-ce que ça leur donne finalement, la première place, la deuxième place, la troisième place, c'est quoi les prix accordés?
La première place, mais en fait, c'est sûr que c'est de la reconnaissance tout d'abord pour l'artiste qui a écrit la chanson, mais la première place fait en sorte que l'année suivante, l'Eurovision se tient dans ce pays-là.
Ah, le pays hôte.
Oui, exactement. Donc, on aurait pu avoir un pays, Eurovision à Tel Aviv, là, dans la
future.
Donc, c'est ça. Ça aurait été un petit peu plus complexe. Donc, c'est ça. Là, ça a amené un problème géopolitique aussi, un petit peu.
Ben, c'est ça. C'est comme tu le disais. La politique est jamais bien loin du concours de chansons qui semble anodin, mais
ben, voilà. Même la chanson, en fait, de la personne d'Israël, au début, en fait, ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas, là, que leurs chansons sont un petit peu controversées parce qu'au début, en fait, les chansons, techniquement, normalement, à l'Eurovision, ne doivent pas inclure de messages politiques. Puis ça fait comme 2 ans qu'ils ont des messages un peu de « nous sommes des victimes d'un génocide », des choses comme ça. Donc là, cette année, la personne que... Je me souviens plus du nom, là, de la jeune femme qui était l'artiste, mais elle avait présenté une première chanson qui a été refusée à cause des messages qui étaient trop ancrés dans la politique. Donc elle a reçu une autre chanson, mais les messages sont encore là, sont juste plus,
un petit peu plus poétiquement écrits. Donc, mystérieux c'est... tout ça, mais
exactement.
C'est ça, comme tu le dis, probablement qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.
Non, c'est ça. Puis on a eu aussi, durant les performances là, d'Israël, on a vu comme les gens qui filmaient dans la foule, qui n'avaient pas beaucoup d'encouragement. Il y avait les drapeaux de la Palestine qui étaient interdits. Il n'y avait pas de personne qui a hué, mais c'était beaucoup moins envenimé
c'est
que
ça,
pour
c'était
les autres.
C'était pas le délire.
Non, c'est ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde était content qu'il soit là, disons.
En plus. Fait que, bon, ben... Puis en plus, Céline n'était pas là.
Exactement. Pas de Céline, finalement, même si on a tout entendu parler qu'elle allait être là.
Non, c'est ça. Ben, semble-t-il que son jet était là.
Ouais,
mais là,
c'est ça.
Où elle était, est-ce que finalement, elle n'a pas pu chanter, ce qui n'est pas complètement impossible. Bon, c'est avec son syndrome de la maladie raide, peut-être qu'est-ce qu'elle a pas été capable finalement de monter sur scène. On ne le saura jamais non plus, probablement. Ben sinon, rapidement, petit projet de loi qui devra être déposé par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui voudrait obliger les Netflix, Disney+, Spotify, Apple Music de promouvoir le contenu québécois lorsqu'on est en sol québécois, donc lorsqu'on ouvre les applications, qu'on ait comme première suggestion, non pas le numéro 1 canadien, mais le numéro 1 peut-être québécois, ou en tout cas de faire découvrir du contenu local. Comment faire ça? Il donne pas de positive solution. Il veut juste que les plateformes le fassent. Fait que c'est...
Arrangez-vous.
C'est ça, c'est arrangez-vous avec ça, mais c'est ça qui est drôle, c'est comme le meilleur projet que tu peux présenter, c'est comme je voudrais que ça se fasse, comment? Arrangez-vous. Projet de loi ambitieux, mais nécessaire, a déclaré le ministre Lacombe en conférence de presse hier. Plus le numérique avance, plus notre culture recule. Ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'effectivement, quand tu pars Netflix, ça va être le film de l'heure et non pas nécessairement les Invincibles qui vont être suggérés comme première chose, parce que je l'ai vu passer d'ailleurs que les Invincibles sont rendus sur Netflix. Notre objectif est de créer un cadre général flexible qui va pouvoir s'adapter dans le temps et suivre les évolutions technologiques, a souligné le ministre. Le projet de loi déposé n'impose aucun quota aux plateformes. Ces éléments seront spécifiés dans des règlements qui restent à être rédigés. Fait que c'est, tout ça est très, très flou, mais bon, faut s'y habituer. On veut arriver avec quelque chose qui est réaliste, car ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne.
Comment,
c'est,
par exemple?
C'est ça, c'est assez bas comme barre, mettons. Et ben, ce qui est particulier, ben, c'est qu'au Canada, ben, c'est le CRTC qui régit tout ce qui est contenu audiovisuel, autant musical que télé. C'est eux autres qui gèrent les quotas et tout ça. Fait que, à quel point est-ce qu'une loi locale québécoise peut avoir tant que ça du poids? Puis qu'est-ce qui arrive si Netflix ne met pas une série québécoise au Québec? Est-ce que le gouvernement va se créer des recours pour que ça arrive? Fait qu'il y a vraiment beaucoup de flou. Donc, malgré tout, les gens de la communauté artistique saluent le projet de loi du ministre de la Culture, même si c'est beaucoup de variables pour quelque chose qu'on n'est pas tout à fait certain de ce que ça va être. C'est un premier pas dans la bonne direction, selon Ève Paré, directrice générale de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo en entrevue à Radio-Canada. La question de découvrabilité est un enjeu que la disque décrit depuis plusieurs années, donc on se sert ici. On sent ici que le gouvernement a pris acte de la situation et entend agir, mais il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport aux règlements qui seront publiés une fois le projet de loi adopté. Donc, essentiellement, on dit... C'est ça, faites-le le plus possible. Puis si vous réussissez, on va s'attribuer la victoire. Sinon, ben, tant pis.
On va dire c'est votre faute.
On va dire, c'est ça, que c'est les grands médias, les grandes corpos qui veulent pas coopérer, ou je sais pas trop. Mais c'est ça, fait qu'à quel point, puis sur Disney+, à bord promouvoir les doublages locaux, qui des fois sont absents sur des trucs récents, il y a pas grande découvrabilité québécoise sur Disney+. Fait que, je sais pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation à voir si réellement ça aura un réel impact et s'il y a vraiment du pouvoir qu'on peut mettre là-dessus. Mais...
C'est peut-être qu'on va avoir les Avengers de Rosemère bientôt.
Ça pourrait être drôle, mais c'est ça. Du contenu original Disney+, québécois, ça pourrait être intéressant. Remarque, bref, en France, on a eu une deuxième saison grâce à Disney+. Fait que je sais pas quel série québécoise pourrait appartenir à Disney à l'avenir. C'est
une espèce... On pourrait reprendre Vrac Télé.
Ouais, c'est ça. On repart des émissions de Vrac à Disney. Je sais pas. Une ultime saison d'une grenade avec ça.
Absolument.
Version Disney, mais avec nos comédiens québécois. Je sais pas. On verra bien. On fait une courte pause ici sur les ondes de CFAQ. Au retour, on parle avec notre premier invité du jour, notre premier invité du jour sur les ondes de CFAQ 88.3.